VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 18h30 à Bamako, 19h30 à Kinshasa, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 30 juin 2017, en direct de Washington, au sommaire ce soir. Nouvel attentat suicide dans l'extrême nord du Cameroun. Les djihadistes de Boko Haram ont tué un civil à Kerawa, à la frontière avec le Nigeria. Combat en RDC entre Mai Mai et FRDC. Deux militaires congolais et six miliciens ont été tués dans le nord Kivu. Décret anti-immigration ici aux États-Unis. Avocats et militants des droits de l'homme sont dans les aéroports pour apporter une aide juridique aux voyageurs des pays affectés. Et puis retrouvez Yacouba Ouédraogo à la fin de ce journal pour les sports et Timothée Donangmaï pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, pas de répit pour l'armée camerounaise dans la lutte contre le terrorisme. Au lendemain de la nomination de nouveaux chefs militaires dans la région de l'extrême nord du Cameroun, des éléments de Boko Haram ont perpétré un nouvel attentat suicide à Kerawa, à la frontière avec le Nigeria. On décompte 3 morts, dont les 2 kamikazes. Les précisions de Yaoundé avec Emmanuel Jules Knapp.
L'attentat suicide s'est produit aux premières heures de la matinée à Kerawa, selon le préfet du département du Mayo-Sava, Babila Aroua.
Bon, il y a 2 kamikazes qui ont tenté d'entrer dans une mosquée aperçue, ils ont activé la recharge.
Le dernier attentat kamikaze qui s'est produit à Kerawa date de janvier 2016 et avait visé une école primaire. Le 23 octobre 2015, ce village était tombé entre les mains de Boko Haram. Il avait fallu une journée d'intense combat pour que l'armée camerounaise reprenne le contrôle de Kerawa. Les terroristes de Boko Haram ont été particulièrement actifs au cours du mois de juin dans l'extrême nord du Cameroun, perpétrant une quinzaine d'attaques suicides. Les récents mouvements au sein de l'armée camerounaise consacrent désormais un dispositif dirigé par des hommes de terrain et aguerris contre le terrorisme. Emmanuel Junta, Yaoundé, VOA Afrique.
Nouvelle violence dans l'est de la RDC. On a appris ce soir que 2 militaires congolais et 6 miliciens ont été tués dans des combats les opposants dans la province du Nord Kivu. Bagasikoura.
Selon le major Dike Kaiko, porte-parole de l'armée dans la région citée par l'AFP, les Mai Mai ont tendu une embuscade jeudi soir entre 2 positions des FRDC, c'est-à-dire les forces armées de la RDC, près de Nyamilima. C'est à 100 km au nord de Goma, la capitale du Nord Kivu. Il souligne que le bilan fait état de 2 FRDC et 6 Mai Mai tués, 8 autres capturés dans des combats qui ont suivi jusqu'à ce matin. Les attaques des miliciens se sont multipliées au courant du mois de juin au Nord Kivu, où est apparu un groupe armé jusque-là inconnu. La première attaque d'envergure a eu lieu les 17 et 18 juin dans la localité de Kabacha, puis des combats à l'arme lourde ont fait 16 morts le 22 juin à Beni. Mercredi, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, avait alerté l'armée congolaise sur ces attaques qu'il considère comme le prélude d'une nouvelle guerre dans l'Est congolais.
Nous restons en RDC. Au moins 7 militants de la société civile ont été arrêtés aujourd'hui à Kinshasa. L'interpellation s'est produite alors qu'ils se préparaient à participer à une conférence interdite d'après des organisateurs. La police a d'ores et déjà fait savoir qu'ils allaient être relâchés. La conférence organisée par le collectif d'action de la société civile portait sur la mobilisation citoyenne pour le retour de l'ordre constitutionnel en 2017. Ces arrestations interviennent le jour de la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance de la RDC. La veille, dans un court communiqué, le président Joseph Kabila avait invité la population congolaise à célébrer cet anniversaire dans le calme et la méditation. « Je regrette que pour des raisons de santé, je ne puis cette année vous adresser mon message de manière traditionnelle », ajoutait le texte. Nous y reviendrons en partie magazine.
Ils sont plusieurs dizaines de manifestants, surtout des jeunes qui ont pris d'assaut le rond-point de la place publique en face du gouvernorat. Ils réclament le départ du gouverneur de la région de...
Vous l'avez reconnu, il s'agit de notre correspondant Boubacar Touré qui va nous parler pour la deuxième fois, à moins d'un mois, des manifestants se réclamant de la société civile de Gao sont descendus dans la rue pour exiger le départ du gouverneur de la région de Gao. Conséquence de cette journée, les services publics et le commerce sont restés fermés toute la journée. Écoutons sa correspondance.
Ils sont plusieurs dizaines de manifestants, surtout des jeunes qui ont pris d'assaut le rond-point de la place publique en face du gouvernorat. Ils réclament le départ du gouverneur de la région de Gao. Comment ici ces jeunes manifestants?
On a reçu des informations que le gouverneur doit revenir à Gao, alors que pendant un bon moment, on avait demandé son départ. On ne veut plus de lui à Gao. Et l'ensemble de la société civile a déposé cet homme-là.
Rougeau, c'est son nom. Un jeune leader, lui, est très remonté contre le chef de l'exécutif.
Le gouverneur, on appelle Orange Money. Parce que dès que vous devenez par rapport à une activité, ils cherchent toujours à avoir 10%. Même pour aller inaugurer une activité, ils cherchent toujours à diminuer Orange Money.
Le gouvernement malien, qui ne veut pas céder à la pression de la rue, n'a toujours pas répondu à la requête des manifestants. Conséquence de cette manifestation, le commerce est resté fermé, les services publics n'ont pas fonctionné, la ville est restée paralysée toute la journée. Il faut rappeler que la première manifestation par rapport au départ de l'actuel chef de l'exécutif remonte seulement au 7 juin dernier.
L'ANC est minée par la corruption et d'autres tendances négatives. C'est l'aveu du président Jacob Zuma à l'ouverture ce vendredi d'une réunion des cadres du parti au pouvoir en Afrique du Sud. Les précisions de Lionel Gaïma.
L'ANC a beaucoup fait pour étendre la démocratie et améliorer les conditions de vie des Sud-Africains. Mais le parti est miné par les luttes intestines et d'autres problèmes, a déclaré le président Zuma. De l'avis du président sud-africain, le parti au pouvoir doit se laver de la corruption, la perte du sens de réalité sociale, les divisions et les abus de pouvoir. À cette réunion de cadre de l'ANC qui doit se poursuivre jusqu'à mercredi à Johannesburg, Jacob Zuma a voulu projeter une image d'unité du parti. Toutefois, certains membres de longue date ont boycotté la conférence du fait des allégations de corruption et de mauvaise gestion contre le chef de l'État sud-africain. Sa décision de limoger le très respecté ministre de Finances, Pravin Gordhan, a été particulièrement décriée par les milieux politiques et financiers. L'ANC doit en principe choisir en décembre un successeur à Jacob Zuma à la tête du parti et le malaise actuel sert de toile de fond à la lutte opposant les deux principaux prétendants, le vice-président Cyril Ramaphosa et l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosasa Dlamini Zuma, par ailleurs ancienne épouse du président Zuma.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, nouveau drame de l'immigration en Méditerranée. Une soixantaine de migrants sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Libye. Tels sont les chiffres donnés par l'Organisation internationale pour les migrations, se basant sur le récit de survivants. Les nouvelles restrictions d'entrée aux États-Unis prévues par le décret anti-immigration de Donald Trump sont entrées en vigueur depuis la nuit dernière. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Le dispositif censé prévenir l'arrivée de terroristes étrangers interdit temporairement l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de la Syrie, la Libye, l'Iran, le Soudan, la Somalie et le Yémen, ainsi qu'aux réfugiés du monde entier. Cependant, sont admis sur le sol américain les étudiants intégrant les universités, les salariés recrutés par les entreprises locales et les professeurs conviés à donner une conférence aux États-Unis. Une personne venant rendre visite à un membre de sa famille proche sera également admise. La notion de famille proche regroupe les parents, y compris les beaux-parents, les époux, enfants, fils ou filles adultes, gendres, belles-filles, les frères et sœurs entiers ou demi-frères et demi-sœurs. Sont donc exclus les grands-parents, petits-enfants, oncles et tantes, neveux et nièces, cousins, fiancés, beaux-frères et belles-sœurs. Ce nouveau décret suscite des inquiétudes. Nous serons prêts au cas où les gens ont besoin de nous, a fait savoir Gregory Chen de l'American Immigration Lawyer Association. De son côté, Rama Issa, directrice de l'Europe American Association of New York, s'alarme, je cite, « J'ai été élevé par mes grands-parents, donc je ne peux pas imaginer qu'ils soient considérés comme extérieurs à la famille. » Fin de citation. Le premier décret avait été suspendu le 3 février par un juge fédéral, tout comme la deuxième mouture du texte en mars.
Lutte contre le groupe État islamique en Irak. Bagdad se dit confiante dans la victoire très prochaine de ses troupes à Mossoul. 3 ans après le début de leur insurrection, les djihadistes sont pris aujourd'hui en étau dans leur dernier grand fief urbain en Irak. Même son de cloche en Syrie voisine, le groupe État islamique s'est totalement retiré de la province septentrionale d'Alep, d'après l'OSDH. Ce retrait d'Alep a été confirmé de sources militaires syriennes. Dans la région toujours, l'aviation israélienne a bombardé une position de l'armée syrienne. Mesure prise après qu'une roquette tirée de Syrie eut frappé le plateau du Golan, occupé par l'État hébreu, d'après l'armée. Les auteurs d'attaques en Europe et aux États-Unis étaient dans leur grande majorité des hommes jeunes et connus des autorités. C'est ce qu'indique une étude universitaire analysant les 51 attentats perpétrés en Occident au cours des 3 dernières années. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Timothée Donangmaï.
L'Afrique du Sud pourrait avoir besoin d'une assistance extérieure pour sortir de sa crise économique, a fait savoir le ministre sud-africain des Finances, Malusi Gigaba, qui a appelé à des mesures drastiques pour lancer la croissance. Le président sud-africain Jacob Zuma a de son côté reconnu que le taux de croissance de 1,3% que s'est fixé le gouvernement pourrait ne pas être atteint. Il a appelé son parti, l'ANC, et ses alliés politiques à débattre des dossiers comme celui de la redistribution des terres comme moyen de doper l'économie nationale. Toujours en Afrique du Sud, la compagnie Coca-Cola a annoncé être parvenue à un accord avec le gouvernement pour la finalisation de l'acquisition par elle de 54,5% du capital de sa joint venture dans le pays. La compagnie a dit également qu'elle honorera sa promesse de porter à 30% la part des investisseurs noirs dans l'opération d'ici 2021. Enfin, bon résultat des services fiscaux du Cameroun qui ont collecté plus de 6,3 milliards de francs CFA en paiement de la vignette automobile pour les 6 premiers mois de l'année. C'est ce qui ressort des chiffres publiés jeudi par la Direction générale des impôts. Conséquence des réformes introduites, cette performance est d'autant plus appréciée qu'elle est en bonne voie pour dépasser les 7 milliards de francs CFA enregistrés pour les vignettes pour l'ensemble de l'année 2016.
Et bien sûr, la page sport à présent, présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Match en cours en Ligue africaine des champions.
Oui, Al Ahly de Tripoli, USM Alger, nous rencontre entre les deux leaders du groupe B. 1-0 pour les visiteurs de l'USM Alger à 3 minutes de la mi-temps. Même score d'1-0 pour Al Merreikh pour le moment dans le derby soudanais face à Al Hilal dans le groupe A.
Et puis ce match nul entre Smoua d'Égypte et Zesco United de la Zambie en Coupe CAF.
Tout à fait, Smoua s'est fait peur en encaissant un but en fin de rencontre, 84e minute avant d'égaliser sur pénalty dans les arrêts de jeu. 1-1 sans incidence sur le classement du club égyptien qui reste dernier du groupe C avec 5 points à suivre également. Platinum Star d'Afrique du Sud, dernier du groupe B contre MC Alger en tête de poule avec 8 points.
Le Zimbabwe et Madagascar rejoignent l'Angola et la Tanzanie en demi-finale de la Coupe COSAFA.
Et c'est sans surprise donc, puisque Zimbabwéens et Malgaches étaient déjà leaders du groupe B. Ils le restent, sont donc éliminés. Le Mozambique tombé 4-1 devant Madagascar. Et les Seychelles qui ont été corrigées par le Zimbabwe 6-0.
Chili-Allemagne ce dimanche pour la finale de la Coupe des Confédérations.
Un choc à suivre à 18h temps universel entre le champion du monde et le double vainqueur de la Copa América. Les deux formations s'étaient déjà neutralisées 1-1 en phase de poule de cette compétition.
Et une fois n'est pas coutume, une Africaine dans le tableau final de Wimbledon. Nous parlons tennis bien sûr.
Oui Claire, la Tunisienne Hans Jaber a battu l'Américaine Asia Mohammad 6-4-6-0, décrochant pour la première fois sa place dans le tableau finale du tournoi Wimbledon. À 22 ans, elle a été la première Africaine à atteindre un troisième tour en Grand Chelem à Paris lors du tournoi de Roland Garros.
Et puis, ben, finissons en os exactement. Lionel Messi et Antonella Roccuzzo se marient ce samedi.
Tout à fait, la star du football et sa compagne s'unissent officiellement dans leur ville natale Rosario en Argentine. Donc, tous les coéquipiers actuels barcelonais de Messi ont fait le déplacement. D'anciens coéquipiers en club comme Cesc Fabregas, Samuel Eto'o de sélection, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi ou Sergio Aguero vont être aussi de la partie.
Merci beaucoup Yacouba.
Le
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous en direct de Washington. Deuxième partie d'émission Les Dossiers du Jour. Le président camerounais Paul Biya a signé hier des décrets nommant de nouveaux généraux au ministère de la Défense. Il a d'abord décidé d'envoyer à la retraite 6 généraux de division, 3 de la gendarmerie nationale et 3 de l'armée de terre. Et Paul Biya a par la suite signé des décrets nommant 11 colonels au grade de général de brigade et général de brigade aérienne. Pour une analyse, John Linden, adjoint à Yaoundé, Manassé Aboya-Andong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala.
Ce réajustement des effectifs au niveau de l'armée intervient au moment où quelques généraux avaient atteint l'âge limite de rester en fonction. Ces généraux ont été justement passés à la deuxième section qui est synonyme de mise en retraite, mais le langage codé au niveau de l'armée est celui du transfert à la deuxième section. Cela a absolument permis au président de la République de nommer de nouveaux généraux dans les différents corps d'armée, notamment l'armée de terre, l'armée de l'air et puis la gendarmerie. Actuellement, il faut y voir un calendrier qui va être très, très, très chargé. Cela peut donner à lire un agenda politique qui permet effectivement de faire bouger les lignes dans tous les secteurs d'activité. Parce qu'il y a 4 jours, c'était l'enseignement supérieur. C'est le tour de l'armée aujourd'hui. Et certainement, les prochains jours vont réserver des réajustements importants dans tous les secteurs de la vie politique, de la vie sociale au Cameroun.
On a vu dans d'autres pays africains les armées prendre ou entreprendre des actions qui parfois peuvent déstabiliser ou donner l'impression de déstabiliser des pays. Est-ce que le Cameroun est à l'abri de cela?
Je crois que le Cameroun a expérimenté une armée républicaine qui se met absolument au service des institutions. Et ces dernières années, justement, ont vu l'armée être déployée au front, notamment dans la guerre de Bakassi et dans la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Nous ne sommes pas encore au Cameroun au niveau d'entrevoir une armée pousser les velléités, justement, de conquête du pouvoir politique. L'armée, pour l'instant, reste une armée républicaine, fidèle aux institutions et au service du président de la République qui est, par ricochet, le chef suprême des forces de l'armée.
On peut s'attendre donc à un remaniement ministériel aussi, vous pensez?
Oui, puisque tous les analystes s'accordent là-dessus. Si on entrevoit la possibilité pour le président de la République de briguer un mandat supplémentaire, cela voudra dire qu'il y aura nécessité de procéder à un réajustement gouvernemental pour mettre en perspective une équipe de campagne qui va l'accompagner dans la conquête de ce mandat que certains estiment qui va être absolument incontournable.
Manassé Aboya-Andong, professeur de sciences politiques à l'université de Douala.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En RDC, pas de festivités pour les 57 ans d'indépendance. Le président Joseph Kabila a annulé son discours de circonstance pour raison de santé. Les autorités appellent la population à plutôt commémorer la date du 30 juin dans la méditation. Eddy Isango a joint le vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Basile Olongo.
Ce n'est pas la première fois qu'on arrive le 30 et que les Congolais réfléchissent sur leur sort. Je pense que ce sera un bon moment, une belle journée de méditation.
Depuis un certain temps, les gouvernements célèbrent avec la population de ville en ville chaque année cette festivité. Donc, ce qui a été prévu à Guémena ou à l'Équateur n'aura pas lieu.
Eh bien oui, c'est-à-dire que chaque gouvernement a son programme. Vous avez suivi que depuis un certain temps, il y a quelques mois où la récolonisation s'annonce, il est grand temps de s'arrêter pour réfléchir. Lorsqu'on vous considère plus comme un État souverain, vous devez vous arrêter de réfléchir. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour défiler, il y a un temps pour réfléchir, pour s'interroger où nous venons, où est-ce que nous sommes, où nous allons.
Il y a eu cette attaque du commissariat de la police à Kinshasa la veille et depuis quelques jours, il y a des cas d'insécurité qui se multiplient. Est-ce que ce ne serait pas là la raison?
Pas nécessairement. Un pays, un cas d'insécurité où vous voyez les chefs de l'État se promener la nuit au Kassai, vous pouvez craindre ça. Mais lorsqu'il se rend jusque-là, là où on prétend parler du Cameroun dans sa politique, il y a autant qui se promènent la nuit à pied. Non, ce n'est pas pour cette raison-là. La raison, elle est claire. Nous devons réfléchir, nous devons méditer sur notre sort.
Vous parlez des récolonisations alors que ce sont les Congolais qui sont mécontents. On a par exemple cette menace de Nimwandantsemi qui a donné un
ultimatum. Et vous dites que ce sont les Congolais qui sont mécontents. Nimwandantsemi n'avait pas de problème avec l'État congolais. Nimwandantsemi, c'était juste un problème. Lui et sa femme, il a pris une deuxième femme et sa belle famille était mécontente. Ils ont eu des problèmes entre eux où il a trouvé comment son beau-frère qui est actuellement vice-ministre de l'UTPR, c'était au gouvernement, il dit, bah, écoutez, parce que ça ne va pas avec son épouse, il doit tout faire pour que son beau-frère quitte le gouvernement. Ce n'est pas un problème que les Congolais sont mécontents. Ce sont des injonctions où on vous dit, on doit s'amener pour faire des enquêtes, sachant très bien que ce sont des terroristes qui sont attaqués et à l'État. À la population.
Les évêques qui mobilisent la population.
Les Congolais vous disent quoi?
À des manifestations pour réclamer la mise en accord.
Les évêques ont appelé les gens à l'insurrection, à un soulèvement. C'est-à-dire que la situation socio-économique aujourd'hui est due au fait qu'on n'a pas organisé des élections. C'est faux. Peut-être mécontent de la part des évêques parce qu'ils ont échoué.
Basile Olongo, vice-ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En Côte d'Ivoire, les épreuves du bac ont débuté lundi. Plus de 242 000 candidats au bac ont planché sur les épreuves. La première étape de ces examens a été perturbée par l'absence d'examinateurs. Plus de détails avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
Yes, come on.
Grisha refuse the consummation.
Comme cette candidate, ce sont 242 910 candidats au bac 2017 qui passeront par l'épreuve orale en français, en anglais, en allemand, en espagnol avant la phase écrite. Pour Yao Rachel, en classe de terminale A, le sujet qui a été proposé est pour elle une occasion pour sensibiliser ses amis sur les effets négatifs de la consommation de la cigarette en milieu scolaire.
C'est abordable, c'était bien, surtout que dans ces temps, on fait des spots à la télé pour sensibiliser les fumeurs. Alors c'est une bonne occasion pour leur dire d'arrêter. La cigarette, c'est pas bien.
Au lycée Sainte-Marie de Cocody, une longue file d'attente. Luzette Ouattara-Grasse, candidate au bac A2, attend son tour de passage depuis 7 heures du matin. Malgré le stress, elle garde toutefois le sourire et l'espoir.
Pour le moment, on est juste en attente là parce qu'il y a d'autres candidats qui doivent passer aussi. Donc on les attend et puis ça va suivre quoi. À chacun son tour. Je ne peux pas dire que je suis prête, mais je veux dire que je me suis apprêtée en conséquence de cause aussi. Ça passe ou ça casse. Forcément, c'est sûr que ça va passer.
Dominique Nguessan-Kouassi, secrétaire du centre du bac de Sainte-Marie à Abidjan-Cocody, justifie ces longues files d'attente par l'absence de certains examinateurs.
Au niveau des examinateurs, nous sommes assurés sur deux examens. Le BPC, dont la délibération a commencé hier, et beaucoup d'examinateurs qui doivent interroger sont à la délibération de l'examen du BPC. Et ça perturbe fortement le déroulement normal des épreuves orales. Quant aux candidats, ils sont beaucoup hésitants. Il y a beaucoup de candidats libres. Donc souvent, ils ne pressent pas le pas. Ils viennent souvent les derniers jours. En français, nous avons programmé 90 candidats. 48 ont répondu présent, soit un taux de 53,33%. Examinateurs en français, 3 prévus, 2 ont répondu présent. En espagnol, nous avons prévu 50 candidats. Il y a 28 qui ont pu composer effectivement. Il y a un examinateur, il était le seul, il est présent. Donc sur les 25, 13 étaient présents.
355 273 candidats au BPC qui ont déjà bravé les épreuves et attendent leurs résultats. Le bac est le dernier de cette série d'examens qui mettra fin à ces examens scolaires à grand tirage. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Retour sur le décret anti-immigration du président Trump ici aux États-Unis. La Chambre des représentants a entamé hier le processus de mise en application de deux promesses clés de Donald Trump. Premièrement, renforcer les sanctions contre les sans-papiers qui retournent aux États-Unis après avoir été expulsés. Deuxièmement, couper les fonds fédéraux alloués à des villes sanctuaires qui refusent de collaborer avec des agents d'immigration. Quelles sont les implications pour les familles en deuil et les sans-papiers à travers le pays? Suivez ce reportage de Catherine Gibson, présenté par Eric Manirakiza.
Donald Trump, alors candidat, avait déclaré que Sarah Root est morte en raison de lâches lois migratoires.
One more child to sacrifice.
Encore un enfant à sacrifier sur l'autel des frontières ouvertes.
Root venait d'obtenir son diplôme universitaire quand elle a été tuée par un sans-papier présumé qui conduisait en état d'ébriété. Sa mère, Michelle Root, est inconsolable.
Je ne vais jamais lâcher et laisser tomber sans battre. Elle le mérite.
Bien qu'il n'existe aucune preuve que les sans-papiers commettent plus de crimes que les autres personnes, Root et d'autres familles trouvent leur réconfort dans des sanctions plus sévères.
Nous aimerions ne pas avoir un autre étranger illégal commettre un crime, mais c'est irréaliste.
Un projet de loi réprimant les immigrants qui reviennent aux États-Unis après être expulsés et sanctionnant les villes sanctuaires a été pleinement soutenu par le président Trump en invitant les familles à la Maison-Blanche et en envoyant au Capitole son secrétaire à la sécurité intérieure.
Les familles et les victimes touchées par des crimes commis par des immigrants illégaux, les villes sanctuaires sont tout sauf sûres.
Selon un député démocrate, les immigrants sans papier comptent sur la protection de ces villes sanctuaires.
C'est un abri sécurisé pour les personnes qui s'occupent de nos familles, de nos récoltes et prennent soin de nos parents. Ce projet de loi est anti-américain.
Et il juge l'autre projet discriminatoire à l'égard des sans-papiers qui respectent la loi. Rien n'assure que les sans-papiers vont être dissuadés par la nouvelle loi, souligne l'activiste Molly Gill.
Il est beaucoup plus efficace de renforcer la certitude que les gens qui viennent illégalement seront arrêtés que de les menacer d'une longue peine d'emprisonnement qu'ils ne connaissent même pas.
Les républicains de la Chambre assurent que leur démarche soutiennent l'une des promesses de campagne du président pour assurer l'ordre public, le député Scott Desjarlais du Tennessee.
Le président Trump réprime les crimes migratoires, les passages frontaliers illégaux sont en baisse et les arrestations et les expulsions d'étrangers criminels sont en hausse, tels que les Américains l'ont exigé en novembre dernier.
Mais d'autres faces de l'agenda du président demeurent incertaines et il n'en restait que quelques semaines avant les vacances d'été. Les républicains estiment que ce renforcement de l'application des mesures migratoires constitue une victoire importante.
Salut les amis, c'est Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Wojtek Journiak à la console, Claire Morin-Gibourg à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, VOA Afrique, et bien sûr, notre page Facebook, VOA Afrique également. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, l'Amérique et vous, présenté par Eric Manirakiza, avant un nouveau point avec l'actualité. Très bonne soirée à tous.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.